Radio Prague, les informations. Bonjour. Le Premier ministre tchèque a dirigé le sommet européen à Bruxelles ce dimanche consacré à la crise économique. Mirek Topolánek a par ailleurs confirmé le sommet Union européenne-États-Unis à Prague le 5 avril. Et en France sport, les championnats du monde de ski nordique se sont achevés à Liberec. C'est le Norvégien Peter Northug qui a remporté la dernière épreuve, le 50 km. Un sommet européen extraordinaire consacré à la crise économique et dirigé par le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek s'est tenu ce dimanche à Bruxelles. Le chef du gouvernement tchèque, qui préside actuellement l'Union européenne, a déclaré avant l'ouverture du sommet que l'Europe n'avait encore jamais dû faire face à une crise de cette ampleur. Ce sommet doit démontrer que l'Union européenne ne doit pas être divisée selon des lignes nord-sud ou est-ouest, a expliqué Mirek Topolánek. À l'issue de ce sommet, Mirek Topolánek a déclaré que les dirigeants des pays membres de l'Union européenne n'avaient noté aucun exemple de protectionnisme. Selon le Premier ministre tchèque, l'Europe peut faire front aux conséquences de la crise économique et financière actuelle uniquement en adoptant une position commune et coordonnée et en respectant les règles actuellement en vigueur. Nous devons améliorer la régulation des institutions financières et leur contrôle, a-t-il expliqué, avant d'ajouter que, je cite, « nous avons besoin d'une Europe sans barrières, d'une Europe avec des règles ». Par ailleurs, le Premier ministre Mirek Topolánek a confirmé dimanche à Bruxelles qu'un sommet entre les chefs d'État et de gouvernement des 27 et le président américain Barack Obama se tiendrait bien à Prague le 5 avril prochain. Mirek Topolánek a indiqué que Barack Obama avait accepté l'invitation de la présidence tchèque de l'Union européenne. Jusqu'à présent, l'ambassade des États-Unis à Prague avait refusé de confirmer l'information. Le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, a soutenu les mesures appliquées par la maire de la ville de Chomutov, en Bohême du Nord, Ivana Rzabkova, à l'encontre des habitants de la ville, ne payant pas leur loyer, leurs factures et les amendes. La grande majorité des habitants touchés par ces mesures sont des Roms. La municipalité a récemment commencé à saisir une partie des allocations sociales versées à ces personnes. Le ministre, qui a déclaré qu'il considérait cette démarche comme juste, est le premier membre du gouvernement à soutenir publiquement la maire de Chomutov. On passe au sport, les championnats du monde de ski nordique, plus importants événements sportifs jamais organisés en République tchèque, se sont achevés dimanche à Liberec, en Bohême du Nord. Le 50 km homme style libre était la seule épreuve figurant au programme de la dernière journée. C'est le Norvégien Peter Northug qui s'est imposé en 1h et 59 minutes. Le Norvégien a ainsi remporté son troisième titre lors de ces mondiaux. Le meilleur tchèque Martin Kokal est arrivé 7e. Le premier fondeur français Vincent Vitoz s'est lui classé 9e. On termine avec un mot de météo. C'est un ciel couvert avec quelques averses passagères qui continuent de régner sur la République tchèque lundi, jour de la fête des Aneshka, Agnès en français, selon le calendrier local. Les températures sont stables et varient entre 5 et 9 degrés pour la maximale. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Ah,
culture sans frontières.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Culture sans frontières. On commence avec une exposition, Paris-Prague. Les deux capitales sont mises en parallèle depuis le 23 janvier dernier par le photographe Peter Schramek dans la galerie 35 de l'Institut français de Prague. En suivant les pas du photographe tchèque Josef Sudek et du français Adje, Schramek compare les évolutions des deux villes entre la fin du début du XXe siècle, les années 50 et aujourd'hui. Olga Poivre d'Arvor, directrice de l'Institut français, commente l'exposition avant que Peter Schramek ne présente son travail.
Ce projet tient à une rencontre il y a déjà une année et demie avec Petr Schramek qui par hasard est passé par l'Institut français en se présentant comme un photographe. Voilà, donc comme nous accueillons avec beaucoup de joie des photographes en général, étant donné que notre profil c'est vraiment la photographie, on a commencé un petit peu à parler et puis lui il nous a expliqué que Il travaillait sur les sujets très intéressants, c'est-à-dire que sur le regard de certains photographes qu'il reprenait lui-même et apportait son regard à lui. Et d'où le projet Soudek, Adjet, enfin, il croisait un petit peu les continents et les regards. Et je pense que cette collection qu'il présente à l'Institut français, c'est l'exemple absolument parfait d'un travail international, pas du tout européen, parce que c'est très à la mode aujourd'hui de dire toujours projet européen, etc. Moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, qu'il faut croiser l'Europe avec d'autres continents. Alors, Petr Šramek, qui est tchèque d'origine, qui vit au Canada, qui parle le tchèque, le français, l'anglais, évidemment, puisqu'il vit à Toronto, ce regard déjà présume qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Et effectivement, les deux superpositions de son regard par rapport à l'œuvre de Soudek, et puis vraiment Prague vue par Soudek et Šramek, et ensuite Paris se reproduit la même chose avec le photographe français, je trouve que c'est génial, parce que là, on a tout dans un seul lieu. Et je pense aussi que pour le public, c'est un regard totalement nouveau. C'est pas une exposition monographique, parce que nous avons en fait trois photographes dedans, et c'est ça qui est intéressant.
C'est assez frappant de voir qu'il y a finalement peu de différences sur les clichés, que les deux villes n'ont pas énormément changé malgré des décennies.
Oui, ça dépend des choix, parce qu'effectivement, ce que vous voyez sur les photographies dans la galerie, ce sont les endroits que nous connaissons tous. C'était aussi un petit peu le but du photographe, c'est-à-dire prendre en photo les lieux qui ne changent pas. Donc, heureusement qu'il y a, c'est aussi un point de repère. Donc, je pense quelque part, nous avons discuté avec Petr, c'était aussi de rappeler aux gens, en fait, au grand public, que malgré les changements et les évolutions dans le bon ou dans le mauvais sens, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a une constante, parce qu'il nous faut une base, sinon on est perdu un petit peu dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant.
Pour chaque lieu parisien ou pragois, l'exposition présente donc deux ou trois clichés. L'original d'une part, suivi de la version Šramek. Une exposition qui s'apparente parfois au jeu des sept erreurs, où le visiteur cherche les différences et les similitudes sur les clichés, ce qui rend la visite particulièrement ludique. Mais il s'agit aussi d'un travail minutieux, de précision, sur deux villes chargées d'histoire et sur deux illustres photographes. Petr Šramek.
Pour quelques années, j'ai fait des photos panoramiques. Et une été, j'étais à Prague et le livre du Soudek, Prague panoramique, dans les magasins des livres. C'est après 40 ans que le livre soit republié. Et j'ai vu les clichés de Prague et panoramique et je me pense où sont ces lieux. J'aime Soudek beaucoup et j'ai l'idée de trouver les lieux des photos. C'est après que j'ai trouvé que quelques autres photographes font des projets comme ça. Alors, j'avais fait environ 80 lieux de Soudek et c'était dans les deux années dernières que j'avais fait les photos à Paris. Adjet est un des grands photographes du monde, de l'histoire de la photo. Alors, il y a aussi des autres qui ont fait ce que j'avais fait avec les photos d'Adjet.
Soudek avait pris aussi des photos, pas exclusivement du centre de Prague, mais aussi des faubourgs. Est-ce que vous êtes allé aussi sur les pas de Soudek dans les faubourgs de Prague, ou vous avez pris que des photos du centre-ville?
Je m'intéresse beaucoup aux lieux historiques. Les bâtiments, l'architecture historique. Alors, j'ai l'idée de faire des photos au centre de Prague. Les photos de Soudek qui sont faites pas dans le centre de la ville, tout est changé maintenant. Et je n'avais pas eu le temps pour trouver ce lieu. Ce sera très difficile à faire ces photos. Parce que quand je fais les photos, je trouve les endroits exacts, s'il est possible, d'où Soudek a fait les photos. Et c'est très difficile quand l'architecture est complètement changée. Aussi, je m'intéresse à les endroits un peu touristiques, parce que pour moi, c'est intéressant que les lieux historiques sont les lieux culturels, mais aussi ils deviennent des lieux touristiques. Peut-être que c'est un peu moins intéressant pour les gens qui vivent à Prague, parce que les lieux sont très, très connus. Mais pour moi, c'est intéressant comment les lieux se changent et comment nous pensons différemment à ces lieux parce qu'ils sont touristiques ou trop connus et aussi trop photographiés.
On dit que Soudek avait une démarche, on va dire, artistique, tandis que Hadjé avait une démarche plutôt documentaliste. Quelle est votre démarche à vous?
Mon travail est plus part une démarche artistique, mais dans ces projets, je pense que c'est un peu plus documentaire, parce que les photos ne sont pas esthétiques, ou ce n'est pas le choix de moi. C'est que je répète les choix des autres photographes. Alors je pense que c'est plus documentaire.
L'exposition se tient jusqu'au 13 mars 2009. On enchaîne avec les voyages, on va aller jusqu'en Afrique, puisqu'à la fin de l'année 2005, la radio publique tchèque a lancé un programme de reality show un peu particulier, puisque ses protagonistes n'étaient pas des humains susceptibles d'être éjectés du jeu suite à des milliers de textos envoyés, mais les gorilles du zoo de Prague. Le programme a eu un franc succès et l'ensemble de la famille de gorilles, et notamment la petite Moya, née à Prague le 13 décembre 2004, est devenue une célébrité nationale. Depuis, le programme s'est diversifié avec la parution de livres de contes, leurs enregistrements sous forme de CD, le tout dans un projet d'aide à la protection des gorilles. Le grand mâle Richard, les femelles Shinda, Kamba et Kiivu, mère de la petite Moya et du dernier né Tatou, sont donc les héros de ce programme pas comme les autres, qui a enthousiasmé le public tchèque, où les primates du zoo de Prague pouvaient être suivis sur Internet 24 heures sur 24, puis à la télévision sous un format différent, puisqu'il a été décidé d'en faire des contes. À partir de là est née l'idée de poser ces histoires sur le papier, ce qui a été fait par Teresa Šafernová et Miroslav Bobek. Il existe aujourd'hui 2 livres tchèques et 1 autre livre publié en français et en anglais en attendant la publication prochaine de la version portugaise. Surtout, une version sonore des contes en français a été enregistrée pendant ce mois de février dans les studios de la station Leonardo de la radio publique. Jan Jiran était à la réalisation.
C'est avec beaucoup de plaisir que j'enregistre à la radio ce CD qui est surtout destiné aux enfants. Les enfants aujourd'hui sont un peu comme si tout leur était déjà donné. Ils regardent la télé, ils jouent sur l'ordinateur ou aux jeux vidéo, donc tout est déjà un peu donné, alors que quand ils écoutent une histoire à la radio ou sur un CD, j'ai le sentiment que ça aide beaucoup plus leur propre imagination. Donc ce projet est pour moi merveilleux parce qu'il aide les gorilles en Afrique, mais aussi nos enfants qui n'ont plus cette possibilité de coopérer sur ces histoires avec leur propre imagination.
Ton vaste fantaisie.
Ça va être quelque chose. Youhou! Elle partit en courant pour en parler à sa maman et à son papa. Et aussi à sa grand-mère.
Le projet, en effet, ne s'est pas arrêté à sa version ludique, mais a pris une dimension éducative et écologique qui s'applique au-delà des frontières de la République tchèque. Miroslav Bobek, co-auteur des différents livres et du projet.
Pokud je o ta cizojazyčná vydání, tak tam vlastně to celé vychází.
En ce qui concerne les éditions en langue étrangère, il s'agit de l'idée que le projet Découverte devait aider à sauver les gorilles qui sont en liberté dans la nature. Le projet a généré pas mal d'argent. Nous avons en premier envoyé des moyens financiers, mais ensuite nous avons pensé qu'il serait plus intéressant de faire quelque chose de palpable. Et comme nous connaissions un peu les conditions en Afrique, nous savions qu'il est très important d'expliquer aux locaux et surtout aux enfants les richesses des forêts tropicales et de leurs habitants, comme justement les gorilles, qui sont sur bien des points semblables aux hommes. Donc nous avons décidé de faire ce livre pour le Cameroun. le projet s'est développé et de facto, nous n'en voyons pas la fin.
Pohádek, a teď ten projekt se nějak rozběhl a de facto mu nevidíme konce.
Effectivement, le projet n'en finit pas avec l'enregistrement d'un disque de Lucie Bila intitulé Moya et le Pan, qui est un des contes parmi lesquels la petite gorille Moya découvre les autres animaux qui vivent avec elle au zoo. Toutes ces histoires ont été directement amenées au Cameroun, où elles ont été présentées dans les écoles. Yana Iratova faisait partie du voyage.
Nous avons produit les livres contes de gorilles pour les enfants du Cameroun et nous les avons amenés là-bas. Nous ne voulions pas les vendre, mais qu'ils soient distribués gratuitement dans les écoles pour que les enfants les connaissent, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont des animaux menacés aussi, pour qu'ils s'amusent en recevant des livres qui sont joliment illustrés, joliment imprimés et qui racontent des histoires qu'ils n'ont pas au Cameroun. Je dois dire que la réception de ces enfants était incroyable. Ils prenaient ces livres, les lisaient et ne voulaient pas du tout les rendre à l'école alors que ces livres étaient pour les bibliothèques de l'école. Et maintenant, on enregistre les contes et on espère que les enfants du Cameroun recevront ces enregistrements.
A doufejme, že i třeba tyto nahrávky se jednou k dětem v Kamerunu dostanou.
L'équipe qui s'est rendue au Cameroun espère effectivement y retourner en décembre prochain. L'aventure des gorilles du zoo de Prague n'est donc pas terminée.
Voilà mon athée, n'jepe bodiwa nene.
Merci d'avoir suivi cette émission de Culture sans frontières. À la semaine prochaine, Zatim Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Direction aujourd'hui le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette. L'un des plus beaux complexes baroques de Prague, non loin du château de Hradčany, ancien lieu de pèlerinage, connu aujourd'hui notamment pour son carillon qui non seulement mesure le ton, mais qui joue aussi des airs appréciés par les passants. Les sons qui viennent régulièrement du haut du clocher de Notre-Dame de Lorette ne présentent pas l'unique rareté de ce monument qui en abrite d'autres comme le fameux ostensoir baptisé Soleil de Prague, orné de diamants dont de la comtesse Eva de Kolovrat. On écoute Martine Opatrny, économiste de l'ordre de la province des Capucins en République tchèque.
Vidět pohromadě 6222 diamantů, to se vždycky nepovede.
Voir ensemble 6222 diamants, cela n'arrive pas tous les jours, et c'est possible justement en visitant la Lorette. Elle possède un ostensoir de la fin du XVIIe siècle, garni de 6222 diamants, qui ornait autrefois la robe de la comtesse Kolovrat, qui en se remariant pour la troisième fois à ses 53 ans, portait sa robe de fiancée ornée de 6400 diamants qu'elle allait ensuite consacrer à la décoration de l'ostensoir. La différence de 178 diamants, ce sont les pierres offertes aux orfèvres qui l'ont créée selon les projets de l'architecte viennois Fischer Derlach.
Podle návrhu vídeňského architekta Fischera z Erlachu.
Le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette est étroitement lié à la famille Lobkowitz. Son centre architectural et idéologique, à l'origine un lieu de pèlerinage, la Santa Casa, a été construit de 1626 à 1631 grâce à Benigna Catherine de Lobkowitz, qui a souhaité avoir un tel site à Prague, à l'instar du sanctuaire italien de Loreto près d'Ancône, d'où le nom de la Lorette. Qu'est-ce que la Santa Casa, Martin Opatrny explique.
Je to idealizovaný domek, který stál v Nazaretu a byl vlastně...
C'est la demeure idéalisée de la Sainte Famille qui se trouvait à Nazareth, d'où elle était transportée par les pèlerins d'abord en Dalmatie, puis à Loreto. Selon la légende, ce sont des anges qui l'ont transportée en une seule nuit, du 9 au 10 décembre 1294, en Europe pour la sauver devant une conquête de Nazareth. En réalité, c'était plutôt la famille qui s'appelait De Angeli.
Le transfert de la Santa Casa par les anges est représenté sous les fresques du sanctuaire. Pourtant, un petit navire représenté en bas semble être le plus proche de la réalité du transport. La réplique pragoise de la Santa Casa n'est pas unique en Bohême. Une cinquantaine de lorettes réparties dans tout le pays affirment la victoire des catholiques en célébrant le culte de la Vierge après la bataille de la Montagne Blanche. Parmi elles, la Lorette pragoise est la plus célèbre. Le complexe comprenant l'église de la Nativité, achevé par l'architecte baroque Kilian Ignaz Dietzenhofer vers 1735, le monastère et les chapelles est administré par l'ordre des Capucins. Les fresques de Václav Vaginetz Reiner sont une copie fidèle de la Lorette italienne. Une autre légende s'attache à la statue de la Sainte Starosta qu'on découvre dans la chapelle Notre-Dame des Douleurs. Dans la tradition tchèque, le culte de cette scène est identique à celle de Sainte Vilgefort, qui aurait été fille d'un roi portugais qui devait épouser un païen. La princesse aurait fait une prière à Dieu pour qu'il la protège et l'enlaidisse. Le miracle a eu lieu, la princesse devenant gratifiée d'une imposante barbe. De colère, son père l'a fait crucifier. La Lorette de Prague ne serait pas ce qu'elle est sans son carillon unique, créé à la fin du XVIIe siècle. Les cloches du carillon sont disposées en trois étages dans le clocher et la plus grande d'entre elles pèse 270 kg. Trois carillonneurs se succèdent pour actionner les bâtons des cloches à l'aide d'un clavier manuel. Parmi eux, une dame, Alena Michalkova.
Je tu 27 zvonů, přičemž 25 jich visí.
La Lorette comporte 27 cloches, dont 25 sont accrochées dans les lunettes et deux dans la coupole en haut. Ce sont les cloches C et F qui sont reliées à la montre et sonnent tous les quarts d'heure et les heures. Toutes les heures entières, de 9 à 18 heures, les cloches jouent la chanson mariale « Mille fois nous te saluons ».
Thank you.
Tous les dimanches, les carillonneurs montent en haut du clocher et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils jouent à 15 et à 18 heures des chants spirituels pendant au moins 15 minutes. Mais il arrive souvent que leur jeu dure beaucoup plus longtemps.
Když je mráz, tak ten zvuk je takový jasnější a zvonivější.
Lorsqu'il gèle, le son est plus clair, étincelant, argentin. Quand il fait chaud, il est moins accentué. Mais je pense que l'auditeur ne distingue pas ces nuances. C'est plutôt nous, les joueurs, qui les percevons. Le carillon et la cabine de carillonneur sont les seuls endroits qui ne soient pas accessibles aux visiteurs de Notre-Dame de Lorette. En revanche, ils peuvent visiter le trésor de Lorette, un ensemble d'objets liturgiques datant des XVIe, XVIIIe siècles, dont justement l'ostensoire baptisé Soleil de Prague, décoré des fameux 6222 diamants, est le plus célèbre. Plusieurs objets ont été offerts au trésor par l'archevêque pragois, le cardinal Arnošt Vojtěch de Harach, qui a aussi consacré le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous disons au revoir et à très bientôt sur nos ondes. Naschledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.